Radio Prague, les informations.
Second tour de l'élection présidentielle, les Tchèques votent ce vendredi et ce samedi. Le candidat Karl Schwarzenberg a déposé un bulletin invalide dans l'urne et puis l'équipe de Miloš Zeman met en garde contre de possibles irrégularités. Le second tour de l'élection présidentielle qui se déroule pour la première fois au suffrage universel direct oppose ces vendredis et samedis l'actuel ministre des Affaires étrangères Karl Schwarzenberg et l'ancien Premier ministre social-démocrate Miloš Zeman. Le scrutin a débuté à 14h ce vendredi. Les bureaux rouvriront leurs portes samedi de 8h à 14h. Les Tchèques de l'étranger ont déjà pu exprimer leur choix et doivent désormais attendre les résultats qui seront connus samedi dans l'après-midi, sans doute aux alentours de 16h pour les premières estimations. 3200 personnes seront ensuite chargées de dépouiller les bulletins, résultats qui seront ensuite examinés par 66 statisticiens dans un bureau centralisé à Prague. Un des candidats à la présidentielle, Karl Schwarzenberg, a déposé un bulletin invalide dans l'urne au deuxième tour du scrutin. Monsieur Schwarzenberg, qui a voté dans sa circonscription un peu après l'ouverture des bureaux de vote, a oublié de glisser le bulletin de vote dans son enveloppe avant de la glisser dans l'urne. Un moment capturé par des dizaines de journalistes. Son vote sera donc considéré comme invalide. Monsieur Schwarzenberg s'est dit dérangé par la présence des médias. Puis à noter que son opposant Miloš Zeman a également voté vers 15h dans le 13e arrondissement de Prague. L'équipe de campagne de ce candidat, Miloš Zeman, s'est adressée au ministère de l'Intérieur à propos de supposées irrégularités au deuxième tour de l'élection. Un membre de l'équipe a déclaré qu'il craignait que certains électeurs aient fait copier leur carte spéciale d'électeur servant en cas de vote hors de la circonscription habituelle. Afin de pouvoir voter dans différents bureaux de vote, le ministre de l'Intérieur a donc informé tous les assesseurs de redoubler d'attention en vérifiant scrupuleusement l'identité des électeurs et a également informé la police. Plus de 700 000 personnes ont fait des demandes de cartes spéciales d'électeur servant en cas d'absence de sa circonscription. Deux femmes âgées sont décédées des suites de complications liées à la grippe AH1N1 dans le nord-est de la République tchèque. Une annonce faite par les services d'hygiène de la région ce vendredi, une épidémie de grippe sévit à l'heure actuelle dans plusieurs régions tchèques, parmi lesquelles la Bohême centrale et du Sud, la Moravie du Sud, les régions de Hradec Králové et de Zlín. Environ 40 personnes sont déjà décédées des suites de la grippe depuis le mois dernier et 196 personnes sont hospitalisées en raison de complications. Et puis, la qualité de l'air en République tchèque a à nouveau empiré puisque les météorologistes placent désormais 6 régions du pays en état d'alerte au smog. À noter également que les météorologistes mettent en garde contre une vague de froid venue du nord-est qui doit frapper la République tchèque ce week-end. Le thermomètre pourrait descendre jusqu'à moins 17 degrés en Bohême dans la nuit de samedi à dimanche. Et ce froid glacial devrait toucher la Moravie dès le lendemain. Ces températures très basses devraient perdurer pendant tout le week-end. La semaine prochaine verra toutefois une inversion de la tendance avec une remontée des températures. Selon les météorologues, celle-ci pourrait atteindre 8 degrés dès mercredi en journée et 4 degrés la nuit. On termine par un plus court bulletin météorologique. Samedi, nous fêterons les auras et le ciel sera dégagé sur une bonne partie du pays, hormis dans la région de Moravie-Silésie. Les températures chuteront dans la journée, comme je vous le disais, et varieront en moyenne entre moins 9 et moins 5 degrés pour les maximales. Comme je vous le disais également, elles pourraient descendre jusqu'à moins 17 degrés dans certaines régions pendant la nuit. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Pierre Maignan. Merci de rester à l'écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Anna Kubišta pour son bulletin d'information. Au sommaire de ce vendredi, la fin d'un système de pointage pour les demandeurs d'emploi qui a essuyé critique sur critique depuis son application en novembre 2011, la traditionnelle revue de presse d'Alena Gebertova et la rediffusion d'un reportage d'Alexis Rosenzweig de décembre 2011. Il s'était intéressé à la tendance qu'ont certains Allemands à venir effectuer des obsèques bon marché en République tchèque. Mais avant cela, Guillaume Narguet revient sur les déboires du gérant Areva dans l'appel d'offres de la centrale nucléaire de Temelin. Bonne écoute à toutes et à tous.
«
L'appel d'offres lancé par Chess pour l'extension de la centrale nucléaire de Temelín se poursuit et toujours sans Areva, exclu de la procédure à l'automne dernier par la compagnie énergétique tchèque. Jeudi, le Bureau pour la protection de la concurrence économique, UOHS, a fait savoir en effet qu'il avait rejeté le recours du groupe français visant à la suspension de l'appel d'offres, et ce pour la deuxième fois déjà. Pour nous parler de tout cela, Guillaume Narguet nous a rejoint en studio. Alors Guillaume, quelle est la nature de cette décision ?
Ce qu'il faut dire tout d'abord, Pierre, c'est qu'il s'agissait effectivement du deuxième recours déposé par Areva, qui conteste son exclusion en octobre dernier de l'appel d'offres et a déposé une plainte allant dans ce sens. Et comme le premier, ce deuxième recours a lui aussi été rejeté, le président du bureau tchèque, l'office anti-monopole tchèque, a expliqué qu'il n'avait pas trouvé d'argument pour répondre favorablement à la demande d'Areva, car le commanditaire Chess donc n'a effectué ces derniers temps aucune nouvelle démarche dans la procédure de l'appel d'offres.
D'accord Guillaume, et quelle a été donc la réaction d'Areva ?
En réaction, Areva, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais a néanmoins accepté de nous donner quelques précisions, a publié une brève déclaration dans laquelle ses responsables ont indiqué ne pas être surpris de la décision prise par le bureau tchèque. Le groupe français estime que celui-ci n'a en effet pas tenu compte de la situation et du contexte, mais surtout n'a pas débuté l'analyse du dossier. La procédure de fond, en effet, se poursuivant, comme l'a confirmé le président du bureau tchèque pour la protection de la concurrence économique. Areva, toujours à en croire son communiqué de presse, réfléchit donc pour le moment aux prochaines démarches qu'il compte entreprendre, sans avoir donné plus de détails sur la nature de ces éventuelles démarches, car, et c'est important de le rappeler Pierre, même si Areva reste pour l'instant à l'écart de l'appel d'offres, le bureau tchèque a néanmoins pris une décision en novembre dernier qui empêche la signature de tout contrat pour l'extension de la centrale nucléaire. Autrement dit, si Chess, qui est propriétaire et gère Temelín, peut donc continuer à évaluer les offres des deux candidats restants, à savoir la société américo-japonaise Westinghouse et le consortium tchéco-russe MIR 2000, aucun contrat ne peut pour l'instant être signé avec l'éventuel vainqueur.
D'accord. Et où en est-on désormais alors avec la procédure d'appel d'offres ? Quel est son avancement, Guillaume ?
L'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín prévoit la construction de deux nouveaux réacteurs pour un montant estimé entre 8 et 12 milliards d'euros. Là, rien de nouveau. À la surprise générale, Areva, qui était le seul candidat européen, a été exclu de l'appel d'offres à l'automne après que la partie tchèque a estimé qu'il n'avait pas respecté le cahier des charges. Deux mois plus tard, en décembre, Chess avait fait savoir que la première analyse des offres et évaluation des soumissionnaires devrait être achevée pour fin février. Initialement, cette étape était déjà prévue pour la fin de l'année dernière et suite à cela, un classement des candidats sera établi et de nouvelles négociations relatives à leur offre seront alors menées. Les Tchèques souhaitent connaître le vainqueur définitif avant la fin septembre et ce afin ensuite de signer le contrat pour la fin de l'année, ce qui pour l'heure est donc impossible en raison justement de la décision qui a été prise par le bureau tchèque pour la protection de la concurrence économique. Néanmoins, rappelons encore qu'il est prévu que les deux réacteurs en question encore à construire seront mis en service en 2025 au plus tard. Cela laisse donc une certaine marge de temps et puis il est également tout à fait possible que le gouvernement décide finalement d'abandonner le projet très onéreux d'achèvement de Temelín ou de le remettre à plus tard. Et si tel était le cas, Pierre, vous l'admettrez, Areva aurait certainement moins de regrets.
Merci Guillaume, Radio Prague continuera à suivre l'évolution de cet appel d'offres, crucial par son importance pour la République tchèque. Les demandeurs d'emploi doivent se préparer à un changement, le système Donez, système qui les oblige à pointer très régulièrement pour justifier de leur inactivité, va être supprimé. Jusqu'alors, s'ils n'effectuent pas cette opération de contrôle, ils sont purement et simplement radiés de la liste des chômeurs. Un système qui est censé lutter contre le travail illégal, mais qui est surtout très critiqué par l'opposition social-démocrate, les syndicats et même le médiateur de la République qui lui reproche de porter atteinte à la dignité humaine et tout simplement de compliquer la vie des personnes sans emploi. Depuis la mise en place du système Donez en novembre 2011, des milliers de demandeurs d'emploi ont été rayés des listes du chômage. Parce qu'ils n'ont pas pointé au moins deux fois par semaine dans les bureaux de la Poste tchèque, ils ont perdu leur droit pour 6 mois. Pour motiver une absence, ils avaient bien sûr la possibilité de présenter un certificat de santé ou de justifier l'existence d'un enfant de moins de 4 ans, mais ce sont avant tout de nouveaux embêtements administratifs qu'il n'est pas toujours simple de satisfaire. Impossible pour ces chômeurs de s'éloigner longtemps de leur domicile, alors qu'ils doivent pourtant parfois faire face à des imprévus, à l'image de cette femme de 25 ans qui réside dans la ville de Jihlava et raconte à la radio tchèque les faits suivants.
Nous sommes partis de façon inattendue, nous avons dû nous absenter et j'ai oublié de le signaler à la poste. À partir de là, on rencontre des problèmes importants, mais je préfère ne pas m'étendre là-dessus.
Ce projet était destiné à lutter contre le travail illégal selon la logique suivante. Si les chômeurs pointent à la poste, ils ne sont pas en train de travailler au noir. Pourtant, il ne semble pas difficile de contourner ce système et certains demandeurs d'emploi affirment même avoir dû renoncer à des entretiens d'embauche car ils devaient aller faire acte de présence à la poste. Sous le feu des critiques, le projet est également dénoncé par le médiateur de la République qui estime qu'il porte atteinte à la dignité humaine. La social-démocratie considère quant à elle qu'il s'agit surtout pour l'État d'économiser sur le dos des plus faibles. 4000 personnes ont été radiées en 5 mois de fonctionnement. 140 millions de couronnes sont donc restées dans les caisses de l'État. Cependant, la ministre du Travail, Ludmila Müllerová, a finalement décidé de revenir sur le projet Donez. Il s'achèvera en septembre prochain et sera assoupli d'ici là.
Les gens vont continuer à se rendre au bureau de poste, mais ils s'y rendront moins souvent qu'aujourd'hui et il y aura également de nouvelles offres d'emploi proposées. D'ici fin août, les gens pointeront moins à la poste donc et ils seront également moins nombreux à devoir le faire.
Actuellement, sont concernés par le système Donez les demandeurs d'emploi répondant au moins à l'un de ces critères. Enregistrés dans certaines branches professionnelles, âgés de moins de 26 ans, ayant travaillé au moins 10 jours les 6 derniers mois. Ce groupe sera donc réduit. La suppression de ce système, qui doit donc intervenir en septembre prochain, ne rassure pas forcément ses détracteurs qui craignent qu'il puisse ressurgir sous une forme différente par la suite, bien que le ministère affirme le contraire. C'est le cas de Pavel Cizinski de l'initiative ProAlt.
Selon la loi, cette obligation de répondre à un appel, de pointer à un bureau du travail ou à la poste demeure. Le ministère du Travail peut donc remettre en place ce système quand il le souhaite et nous y sommes fondamentalement opposés.
Il insiste également sur son caractère inutile, voire contre-productif. À noter enfin que le système Donez est financé sur des fonds européens jusqu'à fin 2013. Selon ses résultats, il était envisagé de le poursuivre. Il n'a visiblement pas fait ses preuves. Le duel présidentiel qui oppose Miloš Zeman et Karel Schwarzenberg fait évidemment les gros titres des journaux. Ce n'est pas une raison pour ne pas jeter un œil plus en avant dans les quotidiens tchèques qui sont notamment revenus sur l'immolation de Jan Palach, survenue il y a 44 ans, et se sont interrogés sur la valeur actuelle de Václav Havel. Une revue de presse signée Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Parmi d'autres thèmes qui ont été traités dans la presse ces derniers jours, il y avait notamment le rappel de la mort de l'étudiant Jan Palach, qui s'est immolé par le feu en janvier 1969 pour sortir la société tchécoslovaque de la léthargie dans laquelle elle avait sombré depuis l'occupation du pays par les chars soviétiques. Dans le quotidien Lidové noviny, l'éditorialiste Biněk Petrášek souligne que Palach n'était pas un sauveur, mais un homme ayant su formuler des revendications très claires et de préciser.
Le mythe créé autour de Palach veut qu'il se soit sacrifié pour nous les autres et que son sacrifice nous ait en quelque sorte sauvés. Mais il est bon de rappeler les faits. Palach ne protestait pas contre l'occupation soviétique et les chars, ça aurait été une folie. Il a protesté contre la facilité avec laquelle la majorité des gens ont accepté cette occupation. Sa lettre de la torche numéro 1 exprimait des revendications rationnelles et réalisables, comme l'abolition de la censure ou l'interdiction de la presse diffusée par des collaborateurs, ni plus ni moins.
Dans le numéro de Mlada Frontanes de samedi dernier, l'historien Vladimir Kučera réagit à des propos mensongers, calomnieux et vulgaires concernant Jan Palach qui circulent sur Internet. Il écrit
« Nous avons tendance à oublier Palach, ainsi que son acte, et acceptons qu'il soit sali par des gens mauvais. Et il n'est pas le seul que cela concerne. Nous n'avons pas le courage de défier ces sales types. Comme si notre conscience n'était pas suffisamment éveillée, il est bon de rappeler les mots que Palach a prononcés avant sa mort. L'individu doit se battre contre le mal, selon les forces dont il dispose. »
Quelle est la valeur de Václav Havel, s'interroge un article publié dans l'avant-dernière édition de l'hebdomadaire Týden, qui rappelle que le premier président post-révolutionnaire Václav Havel a créé pour la République tchèque une marque qui a ouvert au pays sorti du marasme communiste la porte des salons mondiaux. Outre le constat que le nom de l'ex-président tchèque, décédé il y a plus d'un an, jouit d'un grand prestige, notamment dans les sphères de la politique et des droits de l'homme, l'auteur de l'article observe que la marque Havel implique une importante valeur commerciale.
L'aéroport de Prague-Ruzyně, qui s'appelle désormais l'aéroport Václav Havel, a fortement ressenti l'effet de cette marque. Les partenaires commerciaux accueillent ce changement positivement, comme un moyen d'augmenter la visibilité de l'aéroport à l'échelle internationale. La marque Havel n'aide pas seulement l'aéroport, qui est une propriété de l'État, mais aussi par exemple la fondation caritative Vision 97, dont Havel a été le promoteur.
L'hebdomadaire Týden mentionne également les recettes que rapportent les droits d'auteur liés à l'œuvre littéraire et théâtrale de Havel. Une occasion de souligner que la présentation de ses pièces sur des scènes internationales a connu un grand boom après son décès.
Le quotidien Mlada Frontanes a récemment informé qu'une partie du quai Rašín de Prague devrait bientôt porter le nom de Havel, d'après une recommandation de la municipalité de cet arrondissement qui considère que cet endroit s'y prête parfaitement. C'est effectivement là que se trouve la maison où Václav Havel a habité pendant de longues années avec sa première femme, Olga. D'ailleurs, d'autres villes tchèques comptent également donner le nom de Havel à une rue ou à une école, si elles ne l'ont pas encore fait.
Place à l'économie maintenant, cercueil Discount, Sarg Discount, c'est le nom d'une entreprise de pompes funèbres allemande qui propose des obsèques à prix imbattable. Sa recette, des cercueils importés de l'Est et une incinération dans un crématorium situé en République tchèque. Une recette qui marche surtout en temps de crise. Ce reportage d'Alexis Rosenzweig est une rediffusion datant de décembre 2011.
Économie, commerce.
Déchargement d'une camionnette de l'entreprise Cercueil Discount. 6 cercueils en tout, les caisses sont en bois blanc rudimentaire, aucune fioriture et pas de vernis. Nous sommes dans le village de Vysočany, à une trentaine de kilomètres de la frontière allemande. Le patron de la société Cercueil Discount, Hartmut Voite, fait le trajet environ une fois par semaine pour faire incinérer son chargement ici, dans ce crématorium tchèque.
Initialzündung war Aldi.
Notre inspiration, c'est Aldi qui fait du discount alimentaire dans presque toute l'Europe. Nous avons voulu essayer de voir si le concept pouvait marcher aussi dans cette branche. Cela fonctionne bien et avec la crise, on a plus de clients.
Et devant la machine à broyer les restes, avant de mettre les cendres dans l'urne, Hartmut Voite explique son concept.
Cercueil discount, ça veut dire qu'on achète les cercueils en gros et seulement à l'étranger. Et c'est clair, aucun producteur allemand ne peut produire à ce prix-là. Pologne, République tchèque, des éléments que j'achète aussi en Ukraine. Et la prochaine étape est plus loin vers l'Est, parce que les salaires sont moins élevés que dans l'Union européenne.
Hartmut Voite est dans le business depuis une trentaine d'années. Il propose des prix défiant toute concurrence. D'ailleurs, sur son site, il promet à ses potentiels clients que s'ils trouvent moins cher ailleurs, il fera une offre inférieure de 30 euros.
Wenn ich einen LKW Särge kaufe, dann sind da 300 Stück drauf.
Quand j'achète un camion de cercueil, j'en achète 300 d'un coup. Cela me permet de contourner tous les intermédiaires. J'achète directement au producteur et évidemment c'est un avantage et 90% de nos morts sont incinérés ici.
Les tarifs du crématorium tchèque sont évidemment inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne. Les clients de cercueil discount sont évidemment attirés par ces prix, entre 3 et 5 fois inférieurs aux prix de pompes funèbres plus classiques. Mais pas seulement par ces prix. La législation tchèque est également plus permissive dans ce domaine que la législation allemande. Jürgen Borchert est venu à Vysočany faire incinérer son épouse, qui avait émis le souhait que ses cendres soient dispersées librement.
Es ist schön, dass es die Tschechische Republik dieses überhaupt erlaubt.
C'est une bonne chose que la République tchèque l'autorise. L'Allemagne devrait s'en inspirer pour que cela soit possible aussi chez nous. Bien sûr, le prix est important, mais c'est parce que ma femme voulait que ses cendres soient dispersées dans un champ que je suis venu jusqu'ici.
Jürgen Borchert n'est pas le client type de cercueil discount. Le directeur de cette société indique qu'il s'agit souvent de personnes qui n'ont pas d'argent ou qui sont contraints par la loi de payer les frais d'enterrement d'un membre éloigné de leur famille avec qui ils n'avaient plus aucune relation.
Il y a même des clients qui nous appellent pour nous demander si on ne peut pas mettre le corps dans un sac poubelle. Notre réponse est classique, nous ne sommes pas des éboueurs. Nous voulons maintenir un certain niveau. Nous ne sommes pas une entreprise d'obsèques bon marché. Le mot discount est rattaché au mot cercueil, pas aux obsèques. Je suis très ferme sur ce point.
Sans cérémonie ni sépulture, le tarif de base proposé par Cercueil Discount, avec commande par téléphone et crémation tchèque, est de 479 euros et les cendres sont versées à la fosse commune. Selon la Fédération allemande des pompes funèbres, le prix moyen d'un enterrement classique en Allemagne oscille entre 2800 et 3500 euros, le double avec la concession au cimetière et l'entretien de la sépulture. Le crématorium de Vysočany a été construit il y a quelques années par la filiale tchèque d'une société française. Cela fait 10 ans que des citoyens allemands sont incinérés ici, dans ce coin de Bohême qui était au cœur de la région des Sudètes, peuplé en majorité par des Allemands. Jiří Klufa est le directeur financier de ce crématorium.
Naše crématorium má zhruba 20% zákazníků z Německa.
La clientèle allemande représente environ 20% de nos clients. Le reste, ce sont des pompes funèbres tchèques. On a de plus en plus de clients allemands. D'ailleurs, on aimerait en avoir encore plus. On travaille avec des sociétés allemandes depuis plus de 10 ans et on peut dire que nous avons une bonne réputation. Nous sommes évidemment moins chers qu'un crématorium allemand, donc financièrement nous sommes plus intéressants pour les clients de l'autre côté de la frontière. Peut-être que la crise va faire que le nombre de clients allemands va augmenter.
La situation économique pourrait en effet favoriser ce genre de délocalisation assez originale. Le nombre des obsèques à prix réduit est passé de 16% du total des funérailles en Allemagne en 2009 à 20% en 2010 et devrait atteindre 26% en 2011 selon un site internet spécialisé bestattungen.de qui définit par discount des obsèques à moins de 1200 euros.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.cz/fr. À très bientôt. Ahoy!